Votre mari est enceinte.
Oh, je deviens folle.
Mais moi alors, c'est quand même moi qui le porte cet enfant.
CO2, mon amour.
Savez-vous quel est notre ennemi le plus redoutable? La nourriture. La nourriture honteusement trafiquée que nous absorbons quotidiennement. Eh bien, l'absorption journalière de ces produits artificiels a entraîné à la longue une complète transformation de notre organisme.
C'est la fameuse théorie du poulet aux hormones.
Oh, mon Dieu.
Avec Denis Chessou.
Vous êtes, Monsieur Mazzetti, la première victime ou le premier élu d'une société de transformation. Car des milliers d'hommes, je puis vous l'affirmer dès aujourd'hui, vont enfanter à leur tour.
Et vous tenez le poulet pour responsable de cette transformation.
Sur France Inter.
Eh ben oui, nous sommes des mutants, c'était Mastroianni et Deneuve pour débuter. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine, dans cette émission plutôt, donc Très Nature, CO2 Mon Amour Nature avec Jenab Sangaré aujourd'hui à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors hier 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement. Aujourd'hui 6 juin, la population zoom sur les plages de Normandie pour rendre hommage à nos jeunes anciens libérateurs et se disent « Ah, quel genre de cata va encore débarquer ?» Eh oui, chaque jour délivre sa cargaison de pimpantes nouvelles qui vient s'ajouter à celle de la veille. Alors on a beau faire le dos rond, se désarmer de patience, se parfumer d'optimisme béat, faut bien reconnaître qu'une grande majorité des bipèdes occupant cette planète se fichent comme de l'an 44 des nouvelles conditions de la PAC agricole, des goudrons toxiques qui noient ses plages et ses poumons, des algues vertes tonneaux financiers des Danaïdes bretonnes, de la disparition d'espèces qu'ils ne connaissent pas. Bon, vous avez aussi le cortège habituel d'arbres en ville en bonne santé coupés par les élus qui continuent à créer des quatre voies. Une chose importe en ce moment, que les terrasses soient ouvertes et qu'on puisse y piquer gentiment la ruche, en oubliant la condition des abeilles. Alors à quoi bon refaire, vous allez me dire, et vous avez raison, la litanie environnementale quand tant d'efforts et d'inventions positives sont malmenés par un flot d'indifférence. Et puis heureusement, il y a quand même tous les autres, les obstinés, les forcenés, les magnifiques, les mondes vraiment d'après, dans le sens de l'histoire, qui ne se contentent pas de chialer sur le dernier cargo de misère humaine, le ventre rempli de fioul, d'acide nitrique et de billes de polystyrène. La bête toute neuve plonge face aux plages paradisiaques du Sri Lanka, et un peu plus, la panse des poissons, des tortues, plastifiera. Alors heureusement, des ONG, des milliers de jeunes start-up inventent et trouvent des solutions. Les trieurs de déchets et d'idées périmées, les objecteurs de plastique, les faiseurs d'oxygène sont à l'abordage de l'avenir. Et que faire, cuicuit l'oiseau des champs, victime directe de l'étalement urbain et des orientations chimiques agricoles, des arracheurs de haies. Le renard, autre victime facile qui a l'habitude, lui répond mais constituer des collectifs, des groupes de pression capables de peser sur les politiques. Donner le désir d'un autre monde en diffusant une espérance laïque, première marche de l'action. Oui, parce que je ne vous ai pas précisé, notre renard il a fait Sciences Po et il a lu autre chose que Le Petit Prince. Adhérez aux associations, grossissez les rangs des commissions, sortez les pancartes, bougez, ne faites pas que liker. Les biches et les faisans saluent ceux qui passent le week-end avec les enfants à ramasser les ordures des autres, ceux qui risquent leur vie en haut des arbres pour sauver les jardins partagés, ou ceux qui sont sur des zodiaques de fortune. Alors, contre les brutes, les cyniques, les briseurs de rêves, les tueurs de blaireaux made in France, les spéculateurs du vivant qui mettent en coupe réglée les forêts d'ivoire, les trafiquants d'espèces exotiques dont vous remplissez vos volières et terrariums, allez voter ce que vous voulez, mais votez. Ah bah ouais, nous on aimerait bien pouvoir voter aussi et renchérir les dauphins. Car ceux qui seront élus, d'une manière ou d'une autre, le seront avec ou malgré nous. Au cœur de la marée verte du printemps, l'oiseau aux ailes d'or repartit nourrir sa nichée comme il pouvait, en allant plus loin chercher des insectes, car l'appel de la vie est toujours le plus fort. Et tu nous emmènes où, Denis, aujourd'hui? Ah, bah tu pourras pas me suivre, là, 2900 mètres, c'est très haut pour un passereau. Là, tu vois, c'est plutôt le royaume des rapaces, mais surtout des étoiles. Tu vois, là aussi, il y a des protecteurs d'étoiles. Oui, au pic du Midi de Bigorre. Alors, viens dans les Hautes-Pyrénées, on va cueillir un petit bouquet d'étoiles.
Call me a fool. Thanks.
Valérie June, là, absolument dans son mois. Call me a fool sur France Inter, dans ce haut de mon amour. Respirez, vous allez voir.
Et voilà. Alors là, Denis, ce qu'on a, c'est 1000 mètres sous nos pieds. Ce qu'on voit là, c'est la plaine. Au fond, Bagnères de Bigorre. Bien plus loin, Toulouse, parce que notre vue porte à près de 130 km. Et là, plus proche de nous, on voit l'agglomération de Tarbes. À droite, on voit le Vignemale, plus loin, la Netto. Bref, tous les plus hauts sommets des Pyrénées. Hein. Il y a un sommet qui change parmi tous, hein, c'est celui du Pic du Midi, parce qu'il est couronné de ces fameux dômes blancs, les coupoles. Et on est en effet sur le plus vieil observatoire d'astronomie de haute montagne au monde.
Approchez, dames et messieurs, bienvenue dans la piste aux étoiles. Sur ce vaisseau posé sur un édredon de nuages, voici l'île aux étoiles, voici le pic du Midi de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, pour y rencontrer des éteigneurs de réverbères. Eh oui, nous dit Hubert Reeves, il faut rouvrir, rallumer les étoiles, en mettant à genoux notre société de cigales gaspilleuses du monde qui jouit de ses pollutions. C'est donc un vrai projet de territoire, hein, depuis quelques années, qui unit différents acteurs. Donc vous avez le PIC, vous avez le Parc National des Pyrénées, vous avez le Syndicat Départemental d'Électricité, le département. Il s'agit en fait de redonner aussi une espèce de fierté, aussi de faire des économies, de refabriquer du beau et aussi de créer de l'emploi. Alors c'est un rêve collectif, mais disons-le tout de suite, qui a été initié à l'époque par un jeune géographe thésard, visionnaire, fou de montagne, Nicolas Bourgeois, qui est aujourd'hui directeur adjoint alors de ce cap, non de cette péninsule, non que nenni, de ce pic.
Des lieux comme celui-ci, ils sont uniques. Hein. C'est la seule infrastructure de montagne qui ne soit pas accessible par route carrossable, sur laquelle on trouve un observatoire qui est aujourd'hui le plus vieux au monde. Et tout ici est unique en son genre, notamment le télescope Bernard Lyot, le plus grand sur le sol français et qui observe toujours.
On va quand même vraiment tirer un coup de chapeau à deux hommes, et même beaucoup plus, parce que cet observatoire ne s'est pas fait vraiment en un claquement de doigts, loin de là. Quand même à monsieur Nansouty, d'un côté, et puis cet ingénieur qui s'appelle...
Xavier Vaucenin, fondateurs du Pic du Midi, qui en 1850 ont cru un projet, celui de voir une montagne et d'y bâtir un observatoire scientifique. Et cette idée qui s'est concrétisée en 1878, on voit que 140 ans plus tard, elle est toujours aussi vive et on continue de faire vivre l'idée de nos pères fondateurs.
On est un petit peu à la nuit tombante et on voit donc ces villes qui sont en train de s'éclairer. Alors ce projet qui consiste à combattre la pollution lumineuse, quel est-il ?
Alors ce projet, il pourrait paraître tout simple. C'est qu'au départ, c'est une problématique d'astronome qui, au début du XXe siècle, voit la lumière augmenter de plus en plus et cacher leur objet d'étude, le ciel étoilé. Alors forcément, au début du XXe siècle, ça n'intéresse pas grand monde d'imaginer qu'on perd l'accès aux étoiles. Face à enfin l'avènement de l'éclairage public où tout le monde peut accéder à la lumière, repousser la nuit. Mais progressivement, à partir des années 70, on se rend compte que cette lumière artificielle, elle a plus d'un impact bien au-delà de l'astronomie. À la fois sur les rythmes naturels du sommeil, mais également sur la faune. Il faut le savoir, 2/3 de la faune est nocturne, a besoin de la nuit pour vivre, se déplacer, chasser.
Nos chers oiseaux migrateurs ont besoin des étoiles pour se diriger.
Exactement. Et ce qui fait que la nuit, c'est plus qu'un temps entre le coucher et le lever du soleil, c'est véritablement un milieu naturel, un habitat. Et cet habitat, avec cette nouvelle géographie de la nuit, cette constellation Terre, si on peut l'appeler comme ça, cette constellation s'étend de plus en plus et vient fragmenter les habitats nocturnes. Et enfin, quelque chose de encore plus concret pour tout un chacun, c'est le portefeuille. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, éclairé à outrance et surtout mal éclairé, c'était extrêmement coûteux.
Oui, parce que lorsqu'on regarde donc un budget électricité d'une commune, on va dire qu'on est autour de 30 à 40%, ce qui concerne l'éclairage public.
Exactement, c'est la part de l'éclairage public, c'est 30 à 40% de la facture d'électricité d'une commune, et ce, pour en envoyer quasiment la moitié vers le ciel, et l'autre moitié soit dans nos espaces privés, dans nos chambres, et c'est souvent ce que je m'amuse à dire, c'est qu'aujourd'hui on ferme nos volets la nuit, c'est pas pour nous abriter du soleil qui se lève le matin, mais de cette lumière qui, elle, ne s'éteint plus jamais.
Je crois qu'on a 10 millions de points lumineux en ce qui concerne la France, peut-être un petit peu moins. Il y en a la moitié qui sont obsolètes, non ?
Alors ouais, c'est ça, sur les 9 millions, voire même plus, parce que les chiffres évoluent très vite, ouais. La moitié est techniquement obsolète, dépassée. Et aujourd'hui, on est en face d'une révolution technologique, celle de la LED, qui va bien moins consommer. Mais l'idée, c'est pas de se dire bon, on consomme moins, donc on va pouvoir envoyer encore plus de lumière.
Ouais,
c'est de tomber dans une idée de sobriété, c'est-à-dire pourquoi on éclaire aujourd'hui. Ce n'est pas pour montrer qu'on a de la lumière, c'est pas pour resplendir la nuit, c'est pour des besoins pratiques, c'est de permettre d'accéder à certains espaces quand il y en a besoin.
Ouais.
Et c'est toute la symbolique de la lumière qu'on vient jouer là. C'est qu'avant, dans les années 60, c'était pour montrer, on voulait montrer quelque chose, on voulait éblouir, et aujourd'hui on cherche juste à éclairer.
Et être gardien des étoiles ici, c'est en fait devenu un projet de territoire. C'est-à-dire que c'est pas simplement pour faire, entre guillemets, briller le pic, ça va plus loin.
Exactement, et il y a une petite idée qui est très simple, c'est que on connaît nos paysages de jour, nos belles Pyrénées, notre vigne mâle, notre brèche de Roland, sauf que, eh bien, on ne les connaissait pas avec la Voie lactée, avait pris dans un balai céleste entre le sommet de la Pique Longue au Vigne-Mal et le cœur de la Voie lactée qui passe derrière.
Oui.
Et ça vous crée des spectacles, des paysages célestes nocturnes qui, il y a encore 10 ans de ça, étaient inconnus de nos acteurs locaux, de nos habitants. Et on leur a révélé ça. On leur a révélé la dimension nocturne et céleste de leur territoire.
5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Ah, tenez, donc on a ce fameux télescope de 2 mètres de diamètre, donc qui a permis donc des études sur le Soleil. Mais, si on s'intéresse à la Lune, ah, là on la voit, elle est en train de sortir gentiment. Bon, si on dit Apollo quand même.
Oui, on est obligé de parler d'Apollo. C'est que le pic du Midi, dans les années 60, a été un des grands contributeurs de la cartographie de la Lune pour les missions Apollo.
You.
Alors vous voyez, déjà même avant de parler de pollution lumineuse et d'accès au ciel, on avait compris qu'ici au pic, les étoiles étaient quasiment plus proches. Il y a une telle qualité d'observation que les images réalisées de la Lune à l'époque ont amené la NASA à financer un énorme programme de cartographie de la Lune. Et alors c'est rigolo, hein, ce ciel qu'on l'on croit connaître, eh bien dans les années 60, la Lune, on ne savait pas de quoi elle était composée. On ne savait pas que ces cratères que l'on sait aujourd'hui liés à des météorites, eh bien, on ne savait pas que si c'était des cratères d'ordre volcanique ou météoritique. Tout était inconnu. Et au pic du Midi, on a avancé sur ces connaissances parce qu'on avait quand même y posé des hommes là-haut. Donc il fallait quand même savoir sur quoi on se posait.
L'image n'est pas tout à fait nette, mais nous avons Armstrong de face. Il a les deux pieds sur le sol lunaire et il avance encore une fois avec beaucoup de précaution.
On dirait un scaphandrier.
Au début, Armstrong doit d'ailleurs tester son équilibre et évaluer à peu près la vitesse qu'il empruntera pour marcher sur la surface lunaire.
Lorsque l'on parle de réchauffement climatique, là c'est très intéressant parce que c'est aussi un lieu où on l'observe depuis très longtemps.
Ah oui, et là forcément ça se passe de grands discours. Il suffit de regarder, là devant nous on a le glacier d'Ossoux sur le Vigne-Mal, ouais. On a le glacier du Balaïtous là-haut.
Et alors, ce sont des confettis quand même.
Ce sont des confettis qui sont mités de plus en plus. Le Néouviel, on parle de vieille neige, parce que la neige est censée y rester tout le temps. Aujourd'hui, il n'en reste quasiment rien.
Parce que ça, c'est l'origine du nom. Hein.
Exactement.
Néouviel.
C'est ça, vieille neige. Et aujourd'hui, ce réchauffement climatique, on le voit à l'œil nu, il est devant nous, il est sous nos pieds. Et toutes les mesures que l'on fait là-haut le prouvent jour après jour.
Et depuis 140 ans, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on a bien suivi l'affaire.
Exactement, et ça, c'est un des rares sites au monde où depuis 140 ans, on fait des relevés systématiques.
Ouais.
Et alors, c'est très paradoxal. Paradoxal parce qu'on s'est aperçu que ça refroidissait en journée pour une raison très simple, c'est qu'il fait plus chaud en montagne et donc il y a plus d'humidité qui est dégagée et qui vient refléter la lumière du soleil. Et donc on est moins chauffé en journée parce qu'on a plus de nuages.
C'est-à-dire qu'en fait ce matelas d'humidité vient bloquer les rayons du soleil.
Et oui, et forcément il vient refroidir le pic qui est juste en dessous. Mais alors paradoxalement, eh bien, c'est la nuit que l'on va venir observer un réchauffement. C'est-à-dire que le fond d'air nocturne a pris entre 1,3 et 1,6 degrés depuis 140 ans.
Alors on connaît les parcs nationaux, hein, le parc national donc des Hautes-Pyrénées qui n'est pas très très loin, les parcs naturels régionaux, qu'est-ce que l'on pourrait avoir comme ambition pour ce pic?
Alors l'ambition, pour moi elle est toute simple, c'est qu'aujourd'hui les réserves de ciel étoilé, ce sont des réserves qui sont reconnues par un label américain. Donc ce sont un label associatif.
Ouais.
Ces nouveaux espaces de protection et de développement local et de développement durable n'ont pas de statut officiel en France.
Mmh.
Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui en France, on est le pays qui est le plus moteur dans la démarche. On a aujourd'hui deux réserves de ciel étoilé, la nôtre et celle des Cévennes. Une autre est en train d'arriver dans les Préalpes d'Azur. C'est unique en son genre au niveau mondial. Et ces réserves n'ont toujours pas de statut légal. Et alors aujourd'hui, l'idée, c'est de reprendre le fonctionnement des parcs naturels régionaux, hein, qui est celui des réserves, hein, où on fait valoir les savoir-faire locaux, les ressources locales, naturelles et artisanales. Et derrière, eh bien, c'est de faire un PNR, mais ce PNR ne serait pas un parc naturel, régional, mais un parc nocturne régional. Ça, c'est la grande idée que l'on veut défendre aujourd'hui pour faire avancer cette problématique de la protection du ciel étoilé.
Et cette grande idée, elle vient aussi du Québec, hein, du mont Mégantique.
Exactement. Et alors eux, c'est finalement nos jumeaux d'outre-Atlantique. C'est-à-dire que sur le parc national du mont Mégantique, eh bien, on va avoir un parc national, mais avant lui, il y avait un observatoire. Ouais. Et les deux entités se sont associées. Quand les astronomes ont été limités dans le sens où le projet est devenu géographique, c'est-à-dire qu'il a fallu s'étendre au sol et aller rencontrer des acteurs publics pour monter leur projet, eh bien le parc national là est intervenu et a fait valoir son savoir-faire. Et eux, ils sont très en avance aujourd'hui sur cette démarche-là, vu qu'ils ont leur réserve de ciel étoilé depuis 2007, hein, et ils nous précèdent beaucoup. Et eux, cette dimension de développement local, eh bien c'est nous qui leur inspirons. C'est-à-dire qu'ils protégeaient et aujourd'hui, ils ont bien compris la notion de ressources que peut représenter le ciel étoilé pour développer tout un ensemble de produits attractifs qui fait en sorte que eh bien, le parc national dégage une véritable économie. Et là, on rentre dans le cercle vertueux de l'environnemental, de l'économique et du social.
Nicolas Bourgeois, on revient un petit peu au départ. Dans les années 90, il y a un homme qui est assez visionnaire, on peut lui rendre hommage, il s'appelle donc François Fortassin, et qui se dit, bon, voilà, ce pic est en train de crever. Donc, il y a des scientifiques, on n'a pas assez d'argent, ça ne marche pas. Et donc, l'idée, ça a été d'associer donc, le tourisme à la science, afin que les deux puissent cohabiter intelligemment, ce qui est le cas aujourd'hui, et permettent de renflouer l'autre. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le devenir en fait de cette affaire-là ?
Eh bien, le devenir, c'est de ne jamais oublier une chose, c'est qu'après 140 ans d'histoire, le pic, quasiment toutes les deux décennies, a été face à des grosses menaces de fermeture. Et à chaque fois, il y a eu un engouement populaire, un engouement public pour sauver le pic. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, sans l'action publique, sans l'investissement public, ce type de lieu continuera d'être en danger. Parce que nous, notre vocation aujourd'hui, c'est d'être ouvert toute l'année et tout au long de l'année, quelle que soit la météo, quelles que soient les conditions, parce qu'il faut faire vivre l'idée. C'est quoi cette idée ? Eh bien, c'est que le rapport téméraire de quelques hommes à une montagne d'exception, il permet des œuvres grandioses. Et ça, cette idée-là, si on l'oublie, si on la fait uniquement passer dans une quelconque démarche purement mercantile, on va oublier l'âme du pic. Et c'est cette âme du pic qui nécessite de continuer ce qu'on fait ici, c'est-à-dire de l'ouvrir quoi qu'il en coûte et le faire découvrir au plus grand nombre.
Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a évidemment toujours des polémiques sur les ours. Un certain nombre de bergers veulent les tuer, d'autres veulent les garder d'ailleurs aussi. Et vous, en fait, vous êtes gardien de la grande et la petite ours.
Ah oui, alors nous, on est tout de suite sortis de ce débat-là. De toute façon, oui. Nous, on s'est dit, les ours, on les protège. Hein. La grande et la petite ours. Et qui sont un repère dans le ciel qui ne bouge jamais. Parce que notre petite ours, elle indique le nord. Et elle est continuellement au-dessus de l'antenne. Et alors celle-là, elle est dans les Pyrénées et on l'enlèvera pas.
Antenne d'ailleurs qui vous permet d'écouter cette émission, hein, si vous êtes dans ce très très beau coin donc d'Occitanie. On va poursuivre le voyage avec Nicolas Bourgeois dans quelques instants. C'est pas fini. Non, vous n'avez pas appris à céder, et moi non plus.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Jamais piqué par les sectes, ni mordu par le mystique, pas même relevé l'architecte au basilic. Un soir on prend le voile, le matin on les met. Mais l'écho des étoiles on ne l'entend jamais. Mais l'écho des étoiles, on ne l'entend jamais. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas maintenant, quand? Vu le taulier du château derrière sa meurtrière, noyé dans les sanglots d'une si jolie carrière. Un soir on se dévoile, le matin on se tait. Mais l'écho des étoiles on ne l'entend jamais. Les étoiles, on ne l'entend jamais. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis
suis que pour moi. Que suis-je? Si ce n'est pas maintenant. Si ce n'est pas maintenant, quand?
L'écho des étoiles, c'était Maxime Le Forestier sur France Inter. Alors, ouvrir les fenêtres du quotidien. Vous envoyez de l'air chaque semaine comme je peux dans ces Hauts de mon amour. C'est ma mission radiophonique du dimanche, de l'air pur. Mais aujourd'hui, plus qu'ailleurs, cet air pur, vous allez comprendre. Alors, à nos pieds, vous avez le Tourmalet avec ses petits cyclistes bariolés sortis de la boîte en carton. Vous avez des moutons qui les regardent, des barèges gavarnis plantés dans ce pays teuil. Et puis, vous avez, au-delà des gars, vous avez la succession, la partition des trois cirques. Troumouze, Estobé et Gavarnie, la star, qui forment une impeccable partition géologique. Alors, on va revenir cette fois-ci dans les coulisses de ce pic avec Nicolas Bourgeois, parce que même à l'intérieur, la boussole est un accessoire précieux.
Alors, en général, on dit qu'il faut entre 3 et 6 mois pour s'y repérer dans la maison de la radio. mais je pense que chez vous, ça doit être pareil.
C'est qu'après 10 ans, j'arrive encore à me perdre.
Ah oui.
Ouais, parce qu'il y a un facteur qui est différent ici aussi. C'est que la maison de la radio, il n'y a peut-être pas 30% d'oxygène en moins.
Ah, c'est ça. Donc le cerveau est pas rayé de la même manière.
Ah ouais, c'est ça. Et il y a des fois où on va se sentir usé. Et on ouvre des portes et tiens, non, je devais pas monter dans cette pièce. Ça arrive souvent, ça.
Alors, plein d'enfants, ce qui est génial.
Donc là, on va aller dans notre espace expérience qui présente au public la magie du pic. C'est-à-dire la science et les grandes idées qui ont fait du pic ce qu'il est aujourd'hui.
Oula, une chambre à brouillard, racontez-nous.
Alors une chambre à brouillard, tout simplement, c'est quasiment propre à une expérience qu'on pourrait voir dans Harry Potter. Hein. C'est en fait un nuage de brouillard qui tombe sur une plaque très refroidie et ça met le gaz en état de sursaturation et il vient nous révéler quelque chose de très particulier, ce sont les particules cosmiques. Et les rayons cosmiques nous viennent du fin fond du cosmos, qui sont produits par des cataclysmes, des explosions d'étoiles et autres, et nous arrivent sur Terre. On est traversé en ce moment par des millions de particules cosmiques, sauf qu'on ne le sent pas, ou peut-être ça chatouille un peu, et ce brouillard vient nous les révéler, il nous révèle l'invisible. Donc tous ces traits qui zigzaguent dans tous les sens,
ce sont ces fameuses particules.
Voilà, ce sont les fameux rayons cosmiques. Et chacune a une trace particulière, et chaque trace donne un indice sur son identité. Et au pic du midi, ça a été la science qui était la plus florissante dans les années 50 et qui a donné le pic que l'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il fallait d'énormes électroaimants pour attirer les rayons cosmiques, donc beaucoup d'électricité, il fallait forcément faire monter la science internationale, et d'où l'aménagement du téléphérique en 52, puis les chambres, etc., et tout l'infrastructure qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est venu de cette science-là que l'on voit dans ce brouillard.
Il nous faudrait 2 volontaires. Tiens, Potter et Weasley, par exemple. Levez vos baguettes.
On a peur, Potter. Tu aimerais bien.
Attention, à 3. Jetez un sort pour désarmer votre adversaire. Seulement pour le désarmer.
Rictus Empra.
On fait combien de marches et d'escaliers par jour lorsque l'on est un jeune directeur adjoint?
Sincèrement, heureusement, moi, je ne suis pas un de ceux qui en fait le plus. J'en fais beaucoup en montagne. Mais on a fait des calculs avec un médecin qui est venu étudier notre santé sur le pic. Et c'est plusieurs kilomètres que l'on peut faire.
D'accord.
Et sur le pic, on a plus de 3 km de galerie. Ouais. 1 hectare de plancher. C'est une véritable ville sur la montagne. Et alors, pourquoi autant de couloirs? Ça, c'est la grande question. C'est qu'en fait, il y a 20 ans, on ne déneigeait pas. Et donc forcément, le pic était pris sous la neige et la glace 8 mois de l'année. D'accord. Il fallait se déplacer d'un bout à l'autre du pic. Et donc, le pic fonctionnait comme un véritable sous-marin.
On quitte les couloirs. Et là, de nouveau, la terrasse grand public. Là, on a une bonne couche atmosphérique, ce qu'on appelle une base atmosphérique, c'est ça?
Alors là, c'est nous, on appelle ça ici, dans le jargon, la vase atmosphérique. Ouais. C'est-à-dire que le pic s'élève un peu au-dessus de la troposphère basse, qui est entre 2500 et 3500 mètres. Et quand elle est à bonne altitude, eh bien, on voit comme par la tranche, toute cette grande bande marronnasse, là, ce sont en fait tous les aérosols artificiels qui sont bloqués par l'atmosphère. Et nous, heureusement, on respire l'air pur qui est juste au-dessus.
Et dans notre grande famille des aérosols, qu'est-ce qu'on trouve?
Mais forcément, il y a tout ce qui est de l'ordre des particules fines et tout ce qui va être dégagé aussi par les véhicules. Hein. toute cette crasse-là est bloquée juste en dessous de nos pieds.
Ah, notre ami le vautour. Tiens, celui-là, il est tout seul, parce que parfois, ils arrivent à 30-35 sur un cadavre qu'ils ont repéré. Il est curieux.
Alors, il est très curieux. Là, c'est vraiment nos compagnons de l'été. Hein. Ils viennent profiter des ascendants autour du pic. Mais on les soupçonne aussi de venir juste pour regarder. Et les moments où on les voit le plus nombreux et aussi les plus proches du pic, c'est à l'occasion d'événements particuliers comme Piano Pic. On reçoit un pianiste de haut vol, ouais, qui vient se lancer le défi de jouer au pic du Midi devant le public. Alors là, c'est silence sur les terrasses. Il n'y a que le son du piano et celui peut-être du vent qui passe dans les coupoles. Et on voit les vautours qui passent et qui, je l'espère et sans doute, écoutent un petit peu de ces notes perdues dans les hauteurs.
On peut voir évidemment des isards, parce que ça, c'est vraiment, alors c'est le, on va dire, c'est une espèce endémique, hein, vraiment des Pyrénées. Alors que c'est un petit chamois pyrénéen, c'est pas exactement pareil, mais c'est évidemment, c'est une morte d'idée. Et là, on en voit 3-4 qui se baladent. Ah oui, là, on les voit vraiment franchement à l'œil nu. Entre le Tourmalet, donc, et chez vous sur le pic, ça, c'est leur territoire pour acrobates.
Ah, c'est leur territoire pour acrobates. Et moi, ce que j'aime bien quand on parle d'observatoire, hein, c'est que on observe au-delà des étoiles. Là, on a les vautours qui nous passent au-dessus, ouais, on a les isards qui sont juste au pied du pic. Un observateur, c'est ça, c'est finalement, c'est faire porter le regard plus loin. Et quand on vient vivre ça au pic, on y passe une journée, on va avoir vu des tas de choses. Parce qu'on voit les isards, mais on voit aussi les nuages qui se forment au-dessus de nous. C'est vraiment un lieu où on va observer à la fois les étoiles, la faune, la flore, l'évolution du climat. C'est tout ça qu'on observe depuis là-haut.
Oh, quelle nuit magnifique, hein, Milou ? Regarde-moi ces étoiles. Tiens, voilà la grande ourse. Milou, regarde cette grosse étoile. Mais c'est extraordinaire, ça. Il y a une étoile de plus dans la constellation. Aussitôt à la maison, je téléphone à l'observatoire. Allons, dépêchons-nous.
Alors là, on se rapproche d'autres coupoles. En fait, chacune a une fonction particulière ou pas ? On a toujours un télescope à l'intérieur et...
Alors, chacune a une fonction bien particulière. En regardant bien, si vous regardez, alors... on a à l'est, on va avoir les télescopes qui suivent le soleil, ouais, forcément parce qu'ils veulent, ah, en, oui, capter les premières lumières dès qu'il va se lever. À l'ouest, on va avoir le télescope Bernard Liot parce que lui, il est à un endroit où les vents s'écoulent mieux et il lui fallait une belle stabilité atmosphérique. Et ensuite, on a le télescope de 1 mètre, lui qui est au plein centre parce qu'il fait les planètes et ça lui va très bien d'être là. Ouais. Et on était très fiers en plus de pouvoir l'avoir au centre, étant donné que c'est la mémoire de la contribution du pic à Apollo qui est là.
Et puis, il va y avoir un télescope aussi peut-être pour les jeunes, en tout cas un endroit dédié aux jeunes.
Alors là, on l'a juste en face, là, cette petite coupole de droite, juste, ouais, à côté de sa très grande sœur, la coupole Bayo, qui est la plus vieille coupole d'astronomie de haute montagne au monde, bah juste à côté, sa toute petite sœur, qui elle est dédiée intégralement au public. Parce que toute personne qui monte sur le pic, eh bien, se pose une question, c'est qu'est-ce qui se passe sous ces coupoles ? Ouais. C'était très difficile de pouvoir leur répondre, étant donné que les chercheurs y travaillent. On n'allait pas transformer le pic en zoo ou en musée Grévin grandeur nature.
Donc allons voir sous la jupe de la coupole.
Et voilà. Donc allons sous la coupole et venez découvrir ce qui est une véritable observation professionnelle aujourd'hui. Et donc c'est ça qu'ils peuvent découvrir. Et les premières personnes qui y ont assisté, on était très heureux parce que vraiment, quand on applaudit un télescope, ouais, en train de tourner, c'est vraiment que le sentiment de la science en train de se faire est passé.
Et nos jeunes vont pouvoir aussi venir faire des observations, mais pas rester simplement que 24 heures.
Alors c'est ça qui est aussi super, l'endroit où on a les pieds, dans 1 ou 2 ans, va se dresser un futur centre de formation universitaire. Pour les universitaires du monde scientifique européen, ils pourront venir directement sur le pic du Midi, ce sera près d'une 30aine de couchages, il y aura des salles de classe, des labos, un nouvel observatoire. C'est 140 ans après, 20 ans après les menaces de fermeture du pic, eh bien, la science refait un nouveau bond en avant. Et ça, on en est vraiment hyper content. On sait que là, le défi de François Fortassin, cette folle idée de sauver le pic par le tourisme, fonctionne.
Toujours bien planqué avec nos étoiles, qui elles ont le droit de nous éclairer. C'est nous qui n'avons pas le droit de les éclairer. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là que ça...
Et finalement, on se rend compte que quand on les laisse éclairer, eh bien, la Voie lactée elle-même devient une source de lumière. Et si on regarde bien, bon, quand il n'y a pas la Lune, la Voie lactée elle-même projette notre ombre sur le sol. Et alors quand vous avez votre ombre projetée par la Voie lactée, là vous êtes sûr que vous êtes dans un ciel qui est pur au plus haut point.
Nicolas Bourgeois, vous avez 32 ans. Qu'est-ce qui vous anime profondément ? Parce que c'est un projet absolument incroyable et vous avez déjà réussi une première partie.
Ben, moi ce qui m'anime, c'est que nos générations, là, les trentenaires... Il n'y a plus trop de grandes idées qui peuvent nous animer à part celle de l'environnement. Et moi aujourd'hui, c'est finalement j'ai la chance de pouvoir arriver sur le pic du Midi, que ce lieu incroyable joue l'effet d'un véritable incubateur de projets qui permettent de faire porter une parole, qui est celle de protéger les étoiles ou plus simplement de développer nos territoires autour de ces grandes valeurs de l'environnement. Et moi, c'est ça que j'y retrouve en fait du haut de mes 32 ans, c'est d'avoir enfin la possibilité de réaliser des idées et des valeurs qui nous sont fortes, nous, nouvelle génération, qui peuvent faire changer les choses sur l'environnement.
Et c'est à ça qu'on est fortement attaché. Ça vient donner de la consistance, de la substance à nos vies. Pour moi, je trouve que c'est vraiment confortable de me dire « Ouf, je vais peut-être faire mon passage sur Terre en ayant fait un petit peu bouger les lignes ».
Nicolas Bourgeois, avant de se quitter quand même, soit une petite constellation préférée, soit une petite étoile préférée, là, vous avez droit à plusieurs. Mais
bon. Alors ma constellation préférée, s'il y en a une, c'est celle d'Andromède. Andromède, pourquoi ? Eh bien si on regarde, on a ces trois étoiles, on prend l'étoile du centre et on remonte légèrement, ouais. Et on va tomber sur une petite tache laiteuse. Alors ici on dirait qu'elle a une forme de ballon de rugby, ailleurs peut-être une forme de noix.
C'est normal ici,
forcément.
Macario, quand même.
Et alors cette petite tache laiteuse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est notre galaxie voisine, la galaxie d'Andromède. Et à l'œil nu, on est capable de voir un autre univers île qui héberge des centaines de milliards d'étoiles, ouais. Et ça on le voit depuis le vaisseau Terre. Et cette constellation-là, pour moi, c'est l'incarnation de ce qui est beau dans le fait de regarder les étoiles, c'est qu'on fait cette chute vers le haut et on fait cette chute vers des dimensions qu'on n'est pas capable de mesurer.
C'est-à-dire depuis notre galaxie à nous, on voit déjà le début de cette autre galaxie.
C'est ça. Et alors cette expérience, bien sûr, on ne peut la vivre qu'en des lieux où l'on a préservé l'accès aux étoiles. Et une autre dimension de la réserve de ciel étoilé qui dépasse peut-être le développement durable, c'est une dimension métaphysique, c'est de se retrouver, nous, petits humains, sur le vaisseau spatial Terre.
Bon ben Nicolas, moi je vais redescendre, je vais reprendre le Tourmalet dans l'autre sens, voilà. Et puis je vous souhaite quoi ?
Eh bien que longue vie aux étoiles, et puisque la nôtre continuera également, donc.
Elle est à la moitié, nous, le Soleil.
C'est ça, exactement, 4 milliards et demi d'années. Bon, au moins la moitié de la vie du Soleil, alors, c'est ça qu'on va se souhaiter.
Allez, à bientôt Nicolas, bonjour.
À bientôt Denis, au revoir.
Incroyable lieu d'ailleurs qui forme l'identité de ce département des Hautes-Pyrénées. Bon, Lourdes, je vous fais pas de dessin, Gavarnie non plus, et puis donc vous avez ce pic. Mais vous avez des tas de choses, vous avez le Val d'Azun qui est aussi une merveille. Bah tenez, je tiens à remercier Marie-Laure Gomez et José Soares pour leur aide et leur amitié, à Gèze Argelès, à Fabienne et Joachim Moreras aussi, à Bagnères de Bigorre. Voilà, que vous dire ? Oh, bah si, tenez, j'ai très envie de vous citer cet homme, il regardez monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Alors José Maria de Heredia ne connaissait pas forcément le pic, mais en tout cas il s'y connaissait en matière de ciel. Merci beaucoup donc à Nicolas Bourgeois, donc portrait du lieu et portrait donc d'un gardien d'étoiles, et je salue d'ailleurs aussi son équipe. La semaine prochaine, ça va être c'est de l'air, c'est encore, bien sûr c'est de l'air, de village en barrage. On ira retrouver Jean-Michel Tellier, vous allez voir, on aura la Dordogne à nos pieds, et là ça va être encore une nouvelle ambiance. Merci à Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour, à la technique Jenna Sangaré aujourd'hui, merci à Pierre Faucillon qui a remarquablement mixé ce reportage, Xavier Pessugia qui a choisi les disques et donc qui l'a coloré, et Camille Blanès qui nous accompagne également. Je vous souhaite un excellent dimanche.